Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau ce dimanche 7 avril. Deux livres, Souvenirs d'un futur radieux, José Viel, édition Chandaigne, et Margot Delon, le titre, Une histoire des inégalités urbaines, chez La Dispute. On va parler d'immigration, mais on va parler également de dernières décennies, mais que ça a un rapport avec notre vie d'aujourd'hui, et plus que jamais. On parlera également à ce que concerne l'enseignement du portugais dans trois localités du 91. Il n'y a plus de profs, le prof est parti à la retraite, et il n'y a pas de candidat, il paraît, pour le remplacer. Et on parlera également du 106e anniversaire de la bataille de la Lys, les cérémonies officielles, 13 avril à Richebourg, et la couture, et le 14 avril à Boulogne-sur-Mer et à Ambleteuse. Sans oublier, à 13h, on va avoir Fatia Agoun, présidente du groupe Val-de-Marne en commun, pour nous parler du budget 2024 du département du Val-de-Marne, qui a été approuvé le 2 avril, mais l'opposition de gauche est contre. Géviel, Margot Delon, avant tout, bonjour, merci d'être sur Radio Flood et dans les studios.
Bonjour.
Alors, Géviel, Souvenir d'un futur radieux chez Chandaigne. Alors, j'ai dit en livre, alors on est habitué à l'image, on est habitué aux analyses et à cet nombre d'idées qui passent à travers l'image. Qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui t'a pris, parce que je connais depuis longtemps, on va pas être hypocrite, d'écrire en livre?
Bah, c'était, j'allais presque dire, c'est une envie qui me vient de l'enfance. J'ai toujours adoré les livres. J'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Au moins un dans ma vie. Et, là, il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire un film et puis, j'ai commencé à écrire le projet et je me suis aperçu très vite que ce que j'étais en train d'écrire ne tiendrait jamais dans un film. Donc voilà, c'est devenu un texte. Le film est devenu un texte. C'est comme ça qu'est née l'idée du livre, quoi. Mmh. C'est-à-dire, on peut dire plein de choses dans les films, hein. Et j'ai senti que là, soit pour raconter ce que j'avais raconté, notamment l'histoire de mon père, soit je rentrais dans la fiction, soit j'écrivais. Et j'avais aucune envie de faire de la fiction. Ça ne passait pas dans le documentaire parce qu'il n'y avait pas d'image pour remettre le texte. Donc voilà, c'est parti de là.
Voilà, et en même temps, il y a une histoire qui n'avait pas été racontée jusqu'alors. Il y a une histoire qui n'a jamais été racontée. Si c'est vous que je dites, hein, moi je n'invente rien.
Une histoire.
Oui, une histoire, parce que quand on parle de la communauté portugaise, on dit qu'elle est invisible, entre guillemets. Mm. Donc, il y a plein de choses à raconter par rapport à ce parcours, par rapport à leur vécu aussi. Mm.
Tu parles de l'histoire de mon père ?
Ouais, de ton père, mais également de la communauté portugaise. Il y a plein de choses qui n'ont pas été écrites, n'ont pas été dites.
Ah oui, non, excuse-moi, je comprenais pas. Je suis peut-être mal réveillé ce matin, mais on a un large déficit de prise de parole quand même. Mmh. Dans l'immigration, au niveau du cinéma, de la littérature, même des études. Je crois que en bande dessinée, il y a des choses qui commencent à naître. J'ai encore une bande dessinée qui vient de paraître là, qui s'appelle Brulette, mmh. Donc Papillon.
On va recevoir
il y a des choses qui commencent, mais en littérature, nous sommes extrêmement faibles. Nous n'avons pas vraiment de romans qui racontent cette histoire d'immigration, qui racontent par où nous sommes passés, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est, un peu, j'ai l'impression qu'on vient du silence et pour l'instant, on reste un peu silencieux, on va dire.
Alors, il y a quelque chose aussi qui est passé, je n'ai pas passé sous silence, dans la mesure où il y a tout un tas de publications, des études qui ont été faites, mais Margot Delon, enfin des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines. Il s'agit d'une enquête, d'un passé oublié dans plusieurs villes françaises. Et pourtant, c'est assez récent tout ça.
C'est assez récent, mais moi, quand j'ai commencé mon enquête, donc c'était d'abord une thèse un mémoire puis une thèse de sociologie à Nanterre puis à Champigny-sur-Marne. Et en fait, au début des années 2010, on en parlait moins qu'aujourd'hui. Alors, en particulier côté Nanterre, mais bon, côté Champigny, disons que ça avait été, on avait peu d'études, il y avait quelques travaux d'historiens, Mais il me semblait qu'il restait encore à faire une recherche sur les expériences, donc bien comprendre ce qu'avaient été ces expériences du bidonville, et surtout les conséquences que ça avait pu avoir pour les personnes qui avaient passé un certain nombre d'années dans ces lieux de vie.
Alors, votre livre raconte l'histoire des enfants des bidonvilles de l'après-guerre. Alors, 1966, hein, on peut situer un petit peu le truc, 75 000 habitants dans les bidonvilles, mine de rien. Justement, vous avez suivi quoi, le parcours de ces jeunes qui ont vécu dans les bidonvilles? Vous avez cherché des témoignages? Comment vous avez travaillé?
Le point de départ, c'était vraiment les enfants. Ceux que moi j'appelle les enfants, qui quand je les ai rencontrés au cours de cette recherche, avaient entre 40 et 60 ans, mais qui étaient enfants à la période des bidonvilles. L'idée, c'était de reconstituer à partir de leurs souvenirs et la diversité des expériences, et ensuite les parcours, en fait, bien qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois que les bidonvilles ont été détruits, avec un peu l'idée de prendre le contre-pied des scènes d'expulsion auxquelles on assistait et on assiste encore aujourd'hui. Le bulldozer arrive, les baraques sont détruites et on ne sait pas ce que deviennent les habitants. Comme là, il y avait un peu de profondeur temporelle, il me semblait que c'était intéressant pour comprendre comment les inégalités se fabriquent et comment elles se reproduisent ou ne se reproduisent pas toujours exactement de la même manière sur le long terme. Et en plus de ces récits, donc qui étaient des entretiens approfondis avec des personnes que j'ai vues parfois une fois, parfois deux, parfois un peu plus. L'idée, c'était de les suivre dans différents contextes. Bon, il se trouve qu'il y a eu des manifestations à visée mémorielle sur mes deux terrains d'enquête. Et donc, c'est des choses que j'ai observées. J'ai aussi parfois accompagné les personnes, dans des cafés, entre eux, en famille, etc. Et ça a été complété en partie par un travail d'archives, des archives départementales du Val-de-Marne et à celle de Champigny, puis par un travail d'analyse statistique pour avoir un peu des données de cadrage plus générales sur ces populations en France.
Alors, dans votre introduction, c'est page 7, vous citez José Biel, comme par hasard. Alors, José Biel, l'enfant qui part ne sait pas où il va, il pleure de se perdre, alors il sort la tête par la fenêtre du train et chantonne une jolie ritournelle. Donc, t'es arrivé en 1967, ici à Paris, t'étais petit. Et une chose est certaine, c'est que y a plein de choses qui t'ont marqué. Parce que bon, t'as débarqué, c'est le cas de le dire, au bidonville de Massy, avec tout ce que cela implique. Et alors, il y a des images qui sont restées ou pas trop. On va y revenir après par rapport à la mémoire, parce que j'ai l'impression que la mémoire par rapport à tout ça chez toi, elle est un petit peu floue. Je sais pas si ça correspond à une réalité.
Oui, de toute façon, alors. La mémoire, c'est une construction. On en parlait tout à l'heure avec Margot. C'est une construction. Ça dépend à quel moment de ta vie tu es. Par exemple, moi, c'est vers la quarantaine que je me suis intéressé à mon enfance, par exemple. Et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de gens. Et commence à venir des images, et ces images sont construites à partir de ce que je vis aujourd'hui, comment je vois la réalité des migrations aujourd'hui, aussi du travail que j'ai pu faire dans les bidonvilles avec les Roms. Donc je regarde ce passé aussi à travers ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est une mémoire qui est extrêmement floue. Ça se travaille, la mémoire aussi, ça se construit. Et c'est ça que j'essaye de faire dans un des textes, notamment sur le bidonville, qui s'appelle Une saison dans la boue, où j'essaye de me souvenir d'un certain nombre de choses qui étaient très dures, mais aussi des moments où j'étais un enfant insouciant qui jouait et pour qui le bidonville et ce qu'il y avait autour du bidonville, les terrains vagues, c'était des terrains de jeu. Magnifique aussi. Donc je dirais juste que ma sœur, moi j'avais entre 7 et 12 ans, ma sœur qui avait 15 ans, elle n'a pas du tout les mêmes souvenirs que moi. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir de la baraque. C'est-à-dire qu'elle était, des filles étaient à ce moment-là enfermées parce que les parents avaient peur. Donc on n'a pas, à quelques années près, les filles et les garçons n'ont pas du tout les mêmes souvenirs. C'est important aussi de dire ça.
Alors, il y a quelque chose d'important, je fais une petite parenthèse par rapport à vos livres. C'est que ça, c'est une question taboue. Parce qu'on sait qu'il y a eu des viols dans les bidonvilles. Et ça, ça fait des années que j'essaie de travailler dessus, d'avoir des témoignages des femmes. C'est difficile. Je pense que ça c'est quelque chose à creuser, parce que pourquoi c'est une question taboue tout ce qui se passait dans le bidonville, Margot?
Là il va y avoir une question de source, effectivement. Enfin, c'est des choses qui sont sans doute probablement arrivées, mais dont on n'a pas En termes d'archives, sans doute qu'il n'y a pas de traces, qui ont très peu. Enfin, il faudrait regarder plus précisément les archives, peut-être policières. Mais bon, à mon avis, enfin, vu la difficulté même aujourd'hui qu'on a à avoir des données sur ces choses-là, je pense qu'à l'époque c'était encore plus compliqué. Et dans les récits des familles, c'est déjà une période qui était assez stigmatisante. Alors peut-être qu'il y a des endroits où on en parle. Ça vaudrait le coup de chercher. Mais disons, on parle d'un événement. À portée de traumatique dans un contexte de vie difficile, donc c'est une double raison de ne pas en parler, quoi, il me semble. Mais je n'ai pas encore pas rencontré.
Alors, il y a quelque chose qui est commun aussi, il y a plein de choses communes dans vos livres, c'est l'enjeu et le contexte politique. Le Portugal, Javier, il y a la guerre coloniale. Finalement, la guerre coloniale, c'est ça que ça fait démarrer tout un tas de choses. Là, quand on parle souvent d'immigration économique, mais en réalité, c'était l'immigration politique. Et ça, on dirait que la guerre coloniale, bon, ça a été une importance énorme, mais ça a été un petit peu mis de côté. Mmh. Et dans ton livre, justement, tu insistes là-dessus. L'importance de la guerre coloniale, et le fait de l'immigration et tout ce que ça a impliqué pour ceux qui sont partis.
La guerre coloniale commence en 61, l'immigration démarre vraiment entre 61 et 63, donc il n'y a pas de hasard là. Mmh. Et puis, c'est important parce que c'est une immigration, mais au-delà de l'immigration, c'est un exode. C'est 1 million et quelques de personnes qui vont partir en 15 ans, quoi, du Portugal. Donc, c'est forcément un acte politique, même si les gens individuellement vont dire « Ouais, moi je suis parti parce que j'avais envie d'entrevoir un avenir pour mes enfants » ou « c'est un peu la misère, ça commence à devenir compliqué ». Mais quand on regarde l'histoire, quand on observe l'histoire, on s'aperçoit que c'était un énorme exode et que cet exode, il est forcément politique. C'est dire non à un régime, même si les gens n'étaient pas encore... Mon père n'était pas un opposant à Salazar, quoi. Il n'était pas d'accord avec le régime, mais il se déclarait pas comme opposant, il affrontait pas la police politique ou les gens du régime. Donc, mais il va partir, il sait très bien, et il sait parfaitement bien que c'est un acte politique, même s'il il va pas le dire, il va les immigrés, j'ai fait un acte politique, je suis parti. On a quand même appelé ça un plébiscite par les pieds contre le régime de Salazar. C'est Albano Cordero qui a employé cette expression-là. Et je trouve que c'est important de remettre ça dans un contexte politique. Et il faut et aussi rappeler que l'immigration portugaise est une immigration hautement politique dans la mesure où il y a eu des gens qui ont déserté l'armée directement. Là, je parle. Il y a des gens qui sont venus pour ne pas aller en prison ou parce qu'ils étaient allés en prison. Donc, il y a énormément d'opposants politiques qui sont venus en France et des gens qui se sont réfugiés ici pour pas aller à la guerre.
Mmh. Alors, question d'héritage, Margot Delon, en filigrane. Il y a aussi la guerre d'Algérie. Il y a tant de tas de choses derrière l'immigration.
Oui, du coup, pour moi, c'était vraiment intéressant d'avoir ces deux histoires contemporaines, enfin à l'époque, mais aussi aujourd'hui, pour voir comment les mémoires se construisaient. La guerre d'Algérie, sur le vécu et sur la forme des bidonvilles, en fait, a un impact énorme, au moins à Nanterre. Un truc qui m'a surprise quand j'ai commencé l'enquête à Champigny, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Non, mais chez moi, c'était pas un bidonville, c'était plus construit, etc. » Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les archives. L'idée que les deux bidonvilles auraient été différents en raison des caractéristiques des populations qui les habitaient. Donc, algériens, principalement algériens à Nanterre, et principalement algériens à Champigny.
Portugais à Champigny.
Et du coup, donc il y a plein de raisons qui expliquent ces formes et ces expériences différentes, mais notamment le fait qu'à Nanterre, les baraques étaient vraiment, en tout cas pendant la période de la guerre d'Algérie, surveillées d'extrêmement près par la préfecture, par la brigade Z, qui interdisait toute nouvelle construction. Et du coup, on avait un niveau de précarité et de surpeuplement qui a été vraiment très très fort au tournant des années 60.
Alors, précarité, justement, parce que, bon, c'est abordé, ce thème-là, dans vos deux livres. Précarité tout court, question de logement, et Javier, je me souviens maintenant de ton DVD, Le bâton en carton, c'est-à-dire les bidonvilles des années 60, aujourd'hui on est entouré de bidonvilles qu'on ne voyait pas, et ça, il y a ton voyage que tu as fait à Hendaye, on va y revenir, mais justement, il y a quelque chose qui perdure depuis des décennies, c'est la précarité, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le problème d'habitation, il est énorme. l'un et l'autre, qu'est-ce que, comment on peut finalement lier ce qui se passait dans les années 60 et des bidonvilles et aujourd'hui, Margot?
Peut-être déjà souligner que, en fait, le problème de l'habitat précaire dans les années 60, il était beaucoup plus massif. Et pourtant, des solutions politiques, alors avec plein de limites, hein, c'est pas pour dire qu'il faut refaire des cités de transit ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y avait une ambition politique d'investir dans le relogement, même dans la scolarisation des enfants, qui a plus du tout aujourd'hui, en dépit du fait qu'on est sur des chiffres quand même plus inférieurs. Il faut aussi, je pense, prendre en compte la continuité de la stigmatisation et de la ségrégation, dans la mesure où on aurait pu penser, et ça je trouve que c'est un truc qu'on voit beaucoup dans tes documentaires et dans ton livre, José, c'est que finalement il y a une continuité d'un regard vraiment méprisant et raciste sur les habitants, à tel point qu'on est parfois troublé par la superposition des discours en disant, bah, finalement, je sais, on se souvient d'un futur radieux, est-ce qu'on est en train de parler des Roms, est-ce qu'on est en train de parler des Portugais? Et je trouve que ça aide à prendre quand même de la distance avec ce qu'on voit aujourd'hui, de savoir que c'est une histoire qui s'est déjà passée. Bon, c'est un côté désespérant, mais ça permet aussi d'avoir une distance critique qui peut-être peut transformer un peu la manière de se mobiliser et d'envisager ces questions.
Oh ben, moi, je pense toujours à cette idée que les gens, quand j'ai tourné à Massy, donc là où j'avais habité dans le bidonville des Roms, je voyais bien le regard méprisant que les gens avaient sur les Roms. Et je me revoyais 40 ans en arrière et je me disais, les gens qui habitaient les bâtiments, qui devaient voir le bidonville de loin, ils disaient, mais avec ces gens-là, on pourra jamais rien faire. Regardez, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est ce que disaient les voisins des bidonvilles. Mais il ferait mieux de rester chez eux que de venir ici vivre dans telles conditions. Et donc les gens avaient, à cette époque-là, avaient un regard méprisant sur les bidonvilles, le même regard qu'aujourd'hui, quoi. La figure du voisin du bidonville est extrêmement importante pour comprendre que finalement les regards, c'est pratiquement les mêmes mots, en fait. On est dans les mêmes mots. La gestion des bidonvilles par les municipalités est la même. C'est-à-dire qu'on nous a laissé, nous, pendant 2 ans, sans eau, sans un robinet d'eau. Voilà. Et on a fait pareil au Rhum, je veux dire. Donc, il y a quand même des superpositions. Alors, évidemment, la situation n'est pas la même. On a un petit peu moins besoin de main-d'œuvre et on a été mieux tolérés. Les bidonvilles ont été mieux tolérés à l'époque que maintenant. C'est clair.
Alors, quand on est jeune dans un bidonville, José, on a honte. On dit pas où on habite, parce que bon, là, on sent dans quel, on sent inférieur aux autres, on sent quoi? Au milieu de tout ça, quand on va à l'école,
On n'est pas bien, quoi. On n'est pas, carrément pas bien, parce que, on est obligé d'être tout le temps dans le mensonge, et moi, j'étais obligé, à l'école, personne ne savait que j'habitais au bidonville, quoi. Et c'est pas facile à cacher. Parce que on y habite et puis que généralement on va vers cet endroit-là, mais heureusement le bidonville était isolé, donc personne me suivait. J'ai pas été démasqué, voilà. Donc pendant toutes ces années j'ai tenu bon. Alors qu'il aurait été tellement simple de dire voilà, j'habite dans un bidonville, c'est injuste, c'est pas normal. Évidemment, t'es un enfant, tu penses pas du tout comme ça, tu veux juste cacher les choses, quoi. Et puis ça donne. Je ne mesure pas encore les conséquences que ça a eu sur moi, mais et sur les gens qui sont passés comme moi par là. Mais
Mais finalement, un immigré, c'est quoi? C'est un sous-homme, une sous-femme. C'est quoi au juste? Bon, c'est juste une bête de somme pour travailler, Margot. Ben... Bon, à la limite, bon, on parlait à l'extrême, on dit, bon, voilà, c'est des gens de bon pas travailler, qui se débrouillent.
Bon, du point de vue des employeurs et des hauts fonctionnaires, c'est assez net. Enfin, effectivement, les archives, les documents qu'on a sur cette époque, mais qu'on, même encore aujourd'hui, il y a une espèce de cynisme dans la manière de traiter des personnes qui ont des histoires de vie complexes, pleines, avec des espérances. Enfin, c'est vraiment une déshumanisation qu'on trouvait à l'époque et qu'on retrouve encore aujourd'hui, oui.
Alors, bien entendu, les jeunes qui sont passés par les bidonvilles, ils ont eu des enfants. Et dans ton livre, José, tu parles d'un voyage que tu as fait avec ta fille, Andai. Et tu as fait les quais de, justement, de la gare d'Andai. Et tu as essayé d'expliquer à ta fille un certain nombre de choses. Et tu dis, entre autres choses, un tiers des Français a au moins un grand-parent qui a dû quitter pour se faire une vie en France. Tu en fais partie. Bon, plus loin, la page suivante. Je lis ça, pardon le micro. Laissons à d'autres l'aveuglement d'enfermer leur passé d'immigration dans un cercueil et de leur dénier le droit de chercher une vie meilleure. Faisons de notre mémoire un lieu ouvert, un lieu incommun où les exodes du présent interrogent une histoire que refusent de se taire.
Bah, c'est tout simple, c'est très simple. Si on est passé par une histoire, on a réfléchi. Je viens de l'immigration portugaise, de l'exode portugais. Si on a réfléchi un peu comment s'est passé cet exode et comment finalement on n'a pas été si bien accueilli que ça, puisque on a notamment habité les bidonvilles. Quand on réfléchit à cette histoire, comment on peut fermer la porte aujourd'hui aux autres immigrations qui arrivent pour les mêmes raisons, parce qu'ils fuient la guerre, parce que ils cherchent un avenir, tout simplement, ils fuient la misère. Comment on a bien compris pourquoi on est là finalement, pourquoi on n'est pas resté au Portugal ou en Algérie ou en Espagne ou en Italie. Je pense à l'Italie notamment parce qu'il y a des gens aujourd'hui d'extrême droite qui viennent. Qui sont issus de l'immigration italienne, malheureusement. Une fois qu'on a réfléchi à ça, comment on peut... Je ne comprends pas, moi. Comment on peut fermer la porte à ceux qui arrivent aujourd'hui, qui viennent pour les... On peut ne pas être hospitalier avec ces gens-là. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible, quoi. Donc voilà, c'est simplement... Les histoires qui refusent de se taire, c'est ça. C'est simplement de dire... Les gens, ils arrivent pour même les raisons que nous sommes venus. Et pourquoi aujourd'hui, on ne les accueillerait pas?
J'ai commencé par la mémoire et Margot Dolan, vous dites à la fin de votre introduction, le livre se conclut sur les enjeux mémoriels et politiques d'une telle histoire. Il s'agit de comprendre pourquoi tous les enfants ne se souviennent pas de la même façon de leur passé dans les bidonvilles quand parfois le silence dans le règne le silence dans les familles. D'autres font de la mémoire une ressource politique et un instrument de lutte contre les inégalités contemporaines. On revient aujourd'hui justement. Alors, José vient de parler des immigrés d'origine italienne. Bon, leurs parents, ils sont rien probablement, mais enfin, justement, alors, la mémoire et les enjeux contemporains.
Bon, c'est sûr que ça fait directement écho à ce que vient de dire José, et ça fait aussi écho à d'autres témoignages, mais positionnés que j'avais recueillis, notamment à Nanterre. Mmh. Je pense à un enquêté, à Kim, qui a l'une des trajectoires les plus marquées par les inégalités dans les bidonvilles, par les difficultés, et qui en fait est de toutes les luttes, comme il dit. Enfin, dis-moi, c'est plus fort que moi. Quand il y a un truc qui me, même si ça me regarde pas, quand il y a un truc qui va pas, j'y vais. Il était syndiqué, etc. Et l'idée avec le livre, c'était vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient et en quoi l'expérience de bidonville peut aussi, dans certaines conditions, constituer une matrice, ou en tout cas une voie vers la politisation, c'est-à-dire des rencontres, mais ça tient aussi à une, et ça, je pense que tu l'as un peu dit aussi, ça tient aussi à une sorte de réflexivité, en fait. On revient sur son passé, on y pense d'une certaine manière, on digère l'expérience et on en fait une ressource pour se mobiliser. Cette réflexivité, elle vient pas non plus dans n'importe quelle condition. Je pense qu'il y a aussi, et ça répond un peu à ton interrogation finale, il y a aussi des conditions dans lesquelles c'est plus difficile ou plus contraint, en tout cas, d'en faire une ressource politique. Côté, en tout cas moi, les personnes que j'ai rencontrées à Champigny, pour une grande part d'entre elles, c'était pas un positionnement nécessairement qui était là, mais aussi parce que ça aurait été aller contre l'image de l'immigré modèle que, et localement et nationalement, on leur faisait un peu sentir. C'était vous êtes intégré, vous êtes pas comme les autres, vous êtes pas comme ceux du Bois l'Abbé. Donc finalement, il y avait comme une catégorie dans laquelle on a aussi, dans le sens la société française, une forme de racisme bien ancrée, a aussi poussé les Portugais à entrer, et c'est compliqué d'en sortir. En tout cas, il y a une pénalité. Donc, il y a aussi, je pense, une forme de se conformer à ce qui est attendu du groupe pour éviter d'être stigmatisé comme les Algériens ou comme d'autres formes d'immigration coloniale et postcoloniale.
Alors, il y avait le mythe du retour, je me souviens encore quand je suis arrivé. Les Portugais avec qui je travaillais, oui, je vais rester les 4-5 ans et après je rentre au pays. Bon, ils sont toujours là. Par rapport à l'immigration portugaise, on va parler avec José. Mais ça concerne les autres immigrations. Vous avez étudié bon, les Algériens, etc. J'ai l'impression qu'il y a ces deux positions complètement différentes les uns des autres parce qu'ils ont même, ils n'ont pas la même histoire parce que les Algériens, par exemple, ils avaient une histoire commune avec la France. Donc je pense qu'il y a deux points de vue et il y a deux façons différentes d'envisager un retour.
Après, sur le... Alors moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement pour le retour, mais j'ai une collègue, Jennifer Bidet, qui a travaillé sur les maisons et sur les vacances, ce qu'elle appelle les vacances au bled. C'est un livre super qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et il y a quand même un attachement fort à l'Algérie qu'il ne faut pas... Voilà, moi, ce n'était pas au centre de l'histoire que j'ai étudié, donc j'en ai peu parlé, mais il y a aussi un attachement très fort qui passe par la maison, par les vacances. Mais
rentrer au bled, comme on dit.
Voilà, ouais. Mais il y avait... Enfin, ce n'était pas non plus le même rapport et à la langue et aux institutions, donc sans doute que ça a pris des formes différentes.
Alors, José, on n'a pas évoqué ton père dépassé pour les événements. Quand il y a eu mai 68, oh bonjour, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Finalement, le forgeron était un petit peu perdu. Alors, dépassé aussi par les enfants, parce que les enfants étaient temps, ils ont grandi. Le pays d'origine, qu'est-ce que c'est pas? La mère, je m'excuse, la mère a vécu le retour au pays, mais attention, bon, l'émancipation. Mine de rien, avec ses filles et avec vous, les enfants comme femmes s'étaient émancipés. Et le mythe du retour. Le pays d'origine, c'est l'île des absents. C'est écrit, hein, j'invente rien. Parce que finalement, l'immigration, il ne faut pas oublier, par l'essentiel, c'est un exil. Qu'on voyait pas avec tout ce que cela implique, non?
Oui, mais au début de l'immigration, on a besoin de croire que c'est pas comme ça. Parce que je pense qu'en fait, c'est assez simple et en même temps très compliqué. C'est-à-dire que quand on débarque, bah, on n'est pas bien parce qu'on est, il faut tout refaire à zéro. On a tout perdu et on n'a encore rien trouvé. Donc, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et se raccrocher à quelque chose, c'est un mythe qui traverse tous les exils du monde entier, dans le monde entier, qui est le retour de là où on est parti, quoi. Voilà. Et nous, au début, bon, on s'est raccroché à ça, on y a cru, on y a vraiment cru, moi le premier, enfin adolescent, c'était merveilleux, le Portugal était un pays merveilleux. Bon, on en revient assez vite après, quand on devient adulte, mais je pense que fondamentalement, c'est un besoin que tous les exilés, parce que tous les immigrants ont besoin de croire que le pays qu'ils ont quitté devient une terre promise.
Oui, et d'ailleurs, tu racontes dans ton livre, ta sœur, qui avait 16 ans à l'époque, elle est retournée au village. Alors, elle était complètement, elle dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, elle était complètement dépaysée, c'est le cas de le dire. Finalement, on part d'un pays d'où l'on ne revient jamais. Parce que tout a changé. Et nous aussi. Finalement, on est où? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Ça nous questionne, qu'on veuille ou pas.
Oui, c'est l'idée que ici, enfin, moi, tu parlais de ma sœur, elle prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'elle vit ici, elle trouve une certaine liberté, et parce que quand on part, on est sous le coup de la propagande, on est conscient de rien, on est des petits fascistes, on va dire, pour simplifier les choses. Des gens qui pensent comme ça, que tout va bien, qu'on vit dans le meilleur des mondes, que Salazar est le chef, etc., etc. Et on débarque ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même, le monde est différent. Que notre petit pays, là, c'est un truc très, très bizarre. Et donc, quand on y retourne, en ayant vécu quelques années ici, on s'aperçoit que finalement, c'est une prison à ciel ouvert, finalement, le pays. Et donc, et ma sœur, prendre conscience de ça, par exemple. Et ça, ça a été le début de la fin de la propagande sur nous, quoi, par exemple, dans notre famille, quoi. Et ça, c'est extrêmement important qu'elle ait eu cette prise de conscience-là, quoi.
Alors, de ce titre de votre livre, Miracle de Londres, une autre histoire des inégalités urbaines. Ça mérite une explication, ça.
Ben, c'est l'idée de, peut-être encore une fois, de pas de faire une généalogie, mais en fait, on fait face à un certain nombre de questions contemporaines. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le temps. La première version de l'introduction, en fait, je l'avais écrite en référence au film de José Vieira sur La Souvenir d'un futur à deux, donc la résurgence des bidonvilles, et notamment des bidonvilles roms. Et en fait, en juillet, il s'est passé ce qui s'est passé à Nanterre, la mort de Nel, etc. Donc en fait, ce qui est terrible avec la question des inégalités urbaines, c'est que j'aurais pu écrire 40 introductions différentes qui auraient eu 10 sens. Donc les dépopulations toujours stigmatisées ou des nouveaux arrivants stigmatisés, des quartiers dans lesquels les difficultés se reproduisent, exclus. Et l'idée, c'était du coup de faire un pas de côté par rapport à ces questions contemporaines qu'on aborde souvent mal, d'ailleurs, aujourd'hui, avec des discours à côté de la plaque ou stigmatisants, et de voir un peu sur la longue durée comment elles se constituent et qu'est-ce que des histoires comme celle des bidonvilles des années 60 peuvent nous dire des trajectoires, des groupes et des lieux contemporains.
Alors, tout à l'heure, Javier a parlé d'extrême droite en France, des gens d'origine italienne et autres. Et comme par hasard, à chaque fois que...
Je ne veux pas stigmatiser les gens d'origine italienne.
Non, absolument pas. Quand on va voir le nombre de Portugais candidats qui ont été élus à l'extrême droite, il y a des dizaines. Sans oublier une blonde oxygénée qu'à un moment donné faisait partie de la campagne de M. Le Pen. Passons. Elle a été montrée à la télé dans une vidéo de campagne électorale. Par là, c'est que dans ces années-là, les années 60, 70, il y a eu une stigmatisation de l'immigration, les bidonvilles, voilà, les immigrés, etc. Finalement, aujourd'hui, 40 ans après, 50 ans après, est-ce que cette problématique politique, le logement, les immigrés, est-ce qu'on se retrouve finalement, c'est d'autres nationalités, mais est-ce que ce problème-là n'est pas d'actualité ?
Si, complètement. Alors, c'est d'autres contextes. Je pense que la question aussi du marché de l'emploi n'est pas du tout la même. Effectivement, à l'époque, il y avait un besoin de main-d'œuvre fort. Et du coup, il n'y avait pas le même rapport à l'immigration, notamment portugaise. Il y avait aussi une autre manière de traiter les bidonvilles. Le fait que les bidonvilles roms ou les bidonvilles peuplées par ceux qu'on appelle maintenant les exilés soient détruit aussi rapidement. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut laisser des bidonvilles s'enliser comme on l'a fait dans les années 60, mais en tout cas, il y avait une forme de stabilité résidentielle à Nanterre comme à Champigny qui ont, malgré tout, favorisé des trajectoires, pas d'intégration, mais en tout cas d'attachement au lieu, du fait que les gens se sentaient partie de la ville. Et c'est vrai, quand on voit la fréquence et la rapidité avec laquelle sont détruits les bidonvilles, je pense que d'une certaine manière, ce sera beaucoup plus dur pour les enfants des bidonvilles contemporains. Mais il faudra l'étudier.
Parce que je pose la question, Javier, hier, il y a eu deux manifs à Porto, au nord du Portugal. Une contre le fascisme, l'autre organisée par une association 1143. Apparemment, ce serait la date de création du royaume du Portugal. Bon, c'est pas tout à fait vrai du point de vue historique. Mais enfin, ça n'empêche que la manif de l'extrême droite, c'était contre les immigrés pour défendre l'habitation. Ça s'est passé hier à Porto. Donc, on y revient, ce que tu disais tout à l'heure.
Ben oui, on y est. Je veux dire, je pense qu'on c'est pas. C'est, oui, au Portugal et en Europe en ce moment, on a un populisme d'extrême droite qui est en train de monter. Il est en Italie, il est en Hongrie, et il risque de repasser aux États-Unis. Et on vit une mauvaise période là. Mais qui n'est pas spécifique au Portugal. Moi, je suis évidemment très touché par ce qui se passe et par le fait que l'extrême droite est près de 20% des voix au Portugal. Voilà, il va falloir se battre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Bon, alors, ton livre, Javier, Le souvenir d'un futur adieu, fait partie d'une nouvelle collection de littérature des éditions Chandaigne, Bruit de frontières. Mylène Contival, bonjour.
Bonjour.
Mylène Contival, merci d'être en direct avec nous. Alors, vous avez la responsabilité avec Anne-Marie Tourche de cette nouvelle collection. Concrètement, pourquoi avoir créé cette collection ?
Déjà, merci de nous donner la parole et de nous inviter. Oui, en effet, c'est Anne Lima donc, qui a fondé les éditions Chandaigne en 88 aux côtés de Michel Chandaigne qui nous a donné cette responsabilité avec Anna Maria Torres. Les éditions Chandaigne, vous le savez, on est spécialisé dans le monde de langue portugaise. On publie énormément de textes de littérature et en littérature, on travaille la plupart du temps, en fait, avec des traductions. Et l'idée, en fait, des éditions, c'est explorer le monde lusophone, donc en littérature, aussi en histoire, et les différents pays, donc Portugal, Brésil, Angola, Mozambique. Et en fait, il y a quand même un lien qui est indéniable entre la France et le Portugal, et on avait envie d'explorer ce qui se passait un peu de ce côté-là en littérature, mais du coup C'est souvent des gens qui sont installés en France depuis longtemps, voire depuis toujours, et donc qui vont s'exprimer en français et écrire en français. Donc c'était en fait l'idée de cette collection, c'est de continuer l'exploration du monde lusophone, mais en français, parce que cette partie-là existe aussi dans la société française et dans le panorama aussi littéraire.
Alors, Mylène Condivar, il y a quand même des mots qui pèsent, hein, qui ont son importance. Je cite. Donc, cette collection, à savoir Brûle frontières, c'est un espace littéraire et poétique qui permettra de brûler les frontières, de montrer des réalités subtiles, sensibles, loin des clichés crasseux et médiocres qui collent encore à la peau des communautés issues des migrations luso ou étrangères plus généralement. Hein, c'est ouais. Du lourd, hein, Mylène Condivar. Je passe l'expression.
Oui, c'est vrai que on se rend compte qu'on est en 2024 et on est toujours autour des mêmes blagues et on est toujours autour d'une connaissance qui reste très superficielle et qui rentre en complète contradiction justement avec le lien historique entre la France et le Portugal. Et on pense que... Alors, il existe des livres, hein, tout de même, des témoignages, dernièrement des livres d'histoire aussi qui traitent de cette question-là, de l'immigration portugaise, là, pour le coup, en France. En littérature, il en existe aussi, mais peu, finalement. Et il y a le texte d'Ana Maria Torres, donc Terra Fria, qui existe, qui a été publié en 2021. Il y a un très beau texte qui s'appelle Le Poulailler de Carlos Batista, mais qui n'est plus disponible à la vente. Et voilà, et en fait, avec la littérature, on se disait, la littérature, ça permet à une voix, à une singularité de s'exprimer. Et donc, au lecteur d'expérimenter une situation et d'avoir peut-être plus d'empathie avec cette situation et avec le personnage, avec ce qui est raconté. Et c'est de renforcer ce lien pour lutter, pour dénoncer, pour mieux comprendre notre histoire et surtout aussi dire que donc c'est la littérature française, c'est écrit en français, le texte de José est écrit en français, que donc la France, la littérature française, c'est aussi des gens qui sortent de doubles, de plusieurs cultures, qui ont une histoire qui est composée d'éléments, qui est hybride, quoi. Et c'est pas du pur souche, quoi. Et ça, je pense qu'il est temps de l'accepter, de le montrer. Et notre collection, on a envie d'ouvrir cet espace-là.
Javier, une réaction à tout ce que tu viens d'entendre. Oui, je le réveille.
Non, j'ai écouté religieusement Mylène. Qu'est-ce que je pourrais dire que moi je pense que il y a un truc extrêmement important, c'est les clichés qui continuent, quoi, qui perdurent. Moi je l'ai, dans le boulot que j'ai fait de réalisateur de documentaire, je l'ai vraiment senti, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à ces clichés là, quoi, parce que c'est des blagues et tout, mais c'est quand même des fois, c'est un peu lourdingue, quoi. C'est un peu lourdingue ce qui se passe des fois. Et Fernando Pessoa disait une chose, ce que l'étranger connaît du Portugal oscille entre le rien et l'erreur. Et c'est vrai que, au fond, je m'aperçois de plus en plus que, c'est pas une prise de conscience d'aujourd'hui, hein, mais que, en France, on connaît très peu de choses sur le Portugal, sur l'histoire du Portugal. Qui sait qui est, en France, si vous faites une enquête dans la rue, c'est qui est Salazar? Qu'est-ce qu'il représente au Portugal? Enfin, ces 48 ans de fascisme et tout ça. Et on ne sait rien sur le. On sait. Et pourtant, on est nombreux à être là. Enfin, des gens issus de l'immigration portugaise, il y a 1 million et quelques personnes, et on ne sait rien sur le Portugal. Et en plus, on est surtaxé. Déjà de maçon et de concierge, ça c'est évident, mais il n'y a pas de déshonneur à être maçon et concierge. On ne l'est pas tous, Voilà. Et il y a tout ça qui nous colle à la peau comme si on était, comme si on n'avait pas d'histoire, qu'on n'avait rien à dire. Et ça me gonfle vraiment de plus en plus. Et des fois, je viens même un peu violent au niveau du verbe, on va dire. Parce que ras-le-bol d'être pris pour des cons, quoi. Voilà la vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'on est pris pour portugais, c'est le brave type, le brave paysan, le brave pecno qui n'a rien à dire, quoi, qui n'a pas d'histoire. Voilà. Je suis un peu énervé.
Les choses sont dites et bien dites. Bon, je donne mon opinion, mais enfin, c'est comme ça. Mylène, merci, bientôt. Et de toute façon, le prochain livre de la collection, va falloir attendre plusieurs mois, c'est ça?
Oui, a priori, ce sera à partir de janvier 2025, janvier ou mars 2025.
Voilà,
et
merci.
Il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà. Merci à vous.
Merci et un grand bonjour aussi à Ana Maria Torres. Merci bien.
Oui.
Et merci à Javier et merci également à Margot Delon, le Margot Delon. Enfant de bidonville, une autre histoire des inégalités urbaines chez La Dispute. Et Javier, bien entendu, souvenir d'un futur radieux. Déjà le titre, bon, ça, c'est Javier, vraiment, c'est lui. C'est un titre à lui. Plus personne aurait pu trouver un titre pareil. Alors, José, on va te trouver dans plusieurs endroits. Bon, déjà, le 19 avril, la librairie Les Nouveautés à Paris 10e, tu ne vas pas être tout seul. Hein. D'ailleurs, dans la mesure où tu vas être avec Georges Valadas et Vasco Martins, parce que parallèlement, ils ont parlé d'un bouquet Exil, témoignages d'exilés et de déserteurs portugais, la librairie Les Nouveautés. 45 bis, rue du Faubourg du Temple Paris, 10e. Alors, tu seras aussi la FNAC Saint-Lazare. Et en bonne compagnie aussi, avec l'historien Yves Léonard. Ça sera le mercredi 24 à 18h. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ça va être à Bondy, au ciné Malraux de Bondy, pour présenter La Photo Déchirée cette fois-ci. Mais tu vas apporter ton livre, non?
Oui, il y aura aussi le livre.
Voilà. Et avant, bon, le 4 janvier, dans le même cinéma, ça sort dans le cadre de la fête des œillets, 50 ans de la révolution des œillets. Va être projeté le documentaire Changer de vie, la vie et l'œuvre de José Mário Branco. Et un des réalisateurs, Pedro Fidalgo, sera également présent. Merci d'être venu. Alors, Margot, parce que vous dites, bon, finalement, dans votre livre, une histoire aux multiples ramifications contemporaines, on a intérêt de le lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
En tout cas, l'idée, c'était vraiment de rendre accessibles les résultats d'une recherche longue, en travaillant beaucoup l'écriture. L'idée, c'était que des anciens enquêtés, des personnes que j'avais rencontrées puissent le lire, que des étudiants, des lycéens puissent aussi se l'approprier, des profs, des travailleurs sociaux. Voilà, donc c'est que ça circule, parce que je pense que ça peut nous dire aussi voilà, beaucoup de choses de la situation contemporaine. Il y a un aspect qu'on n'a peut-être pas abordé sur le... Et ça rejoint un peu la discussion que vous aviez avec Mylène aussi sur le poids des clichés, des stéréotypes. Et on en parlait avec José avant de commencer l'émission, le fait que y a une énigme statistique qui est que les trajectoires scolaires et professionnelles des personnes d'origine algérienne et marocaine est beaucoup plus diversifiée que les personnes d'origine portugaise. Donc ça s'explique et par des aspirations familiales qui sont pas exactement les mêmes, ça s'explique par des clichés qui ont la peau dure et qui parfois peuvent orienter aussi des destins scolaires vers certains secteurs en particulier, mais ça s'explique aussi par des rencontres avec des bénévoles, avec des militants qui sont beaucoup allés à Nanterre pendant la guerre d'Algérie, mais aussi après, et qui ont finalement permis aux enfants de certaines familles de connaître des ascensions sociales par l'école qu'on n'observe pas du tout à Champigny. Et je pense que ce truc-là, l'idée de dire, sur le long terme, il y a des effets à la rencontre avec des bénévoles, des militants, donc... Même si, quand on s'engage auprès des habitants des bidonvilles contemporains, c'est dur parce que c'est détruit l'un après l'autre. En fait, je pense qu'il y a, sur le long terme, on voit des choses, quoi. Donc, c'était aussi un peu un mini message d'espoir à délivrer auprès de toutes celles et ceux qui luttent aujourd'hui auprès des familles. C'est qu'en fait, ça donne des effets, quoi.
C'est un rayon de soleil.
Je voulais dire un truc, c'est extrêmement important de lire le livre Enfants des bidonvilles, parce que le fait que Margot mette en parallèle l'histoire du bidonville Nanterre, où il y avait plus d'Algériens, et le bidonville de Champigny, où il y avait essentiellement c'est un bidonville portugais, d'abord c'est passionnant de faire cette histoire croisée, et puis ça nous permet à nous, issus de l'immigration portugaise, de réfléchir à notre positionnement aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans l'immigration. Voilà. Je pense que ça fait réfléchir, en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup interpellé, quand même.
Merci à tous les deux d'être venus un dimanche en plus et un transport en commun. Galère. Merci. Margot, merci également, José.
C'est moi.
Merci. Et nous, on reviendra après 13h.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Passagem a Nível, ce dimanche 7 avril, 12e heure. Et je rappelle l'émission que ça sera rediffusée dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. On est dans le 94 et on va y rester dans le 94. En effet, le budget 2024 du département a été approuvé le 2 avril. Mais quel budget! Fadia Agoun, bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour à vous et merci pour votre invitation.
Je vous en prie. Alors, vous êtes présidente du groupe Val-de-Marne en commun, PCF et citoyenne. Alors, déjà, on a un rendez-vous dans les studios. Je profite pour rappeler cette invitation. Ça sera le 28 ici dans les studios. Donc, et ce jour-là, le 28, donc à la fin du mois, on aura l'occasion de détailler poste par poste ce budget. Mais il y a trois mots que je peux déjà avancer. Un budget, bon, irréaliste, de renoncement, d'immobilisme. Vous n'allez pas de mots morts, je passe à l'expression, Fatia Agoun.
Bah, tout à fait, c'est les mots qui caractérisent bien ce budget 2024, puisque, effectivement, comme vous l'avez dit, ce budget a été adopté par la majorité de droite le 2 avril dernier. Un budget pour nous qui est à la fois un budget irréaliste du fait de à la fois des recettes qui sont à la fois surévaluées, notamment, alors je vais quand même préciser puisque c'est des termes qui sont assez techniques puisque nous avons les droits de mutation à titre onéreux qui sont les taxes perçues par les principales collectivités. Principalement par les collectivités et dans le cadre de transactions et de ventes de biens immobiliers qui sont pour nous à la fois surévalués compte tenu de une lente reprise des ventes immobilières et concernant aussi la fraction de la TVA qui est aussi surévaluée malgré le contexte et les prévisions de croissance et d'inflation pour 2024. Et surtout, nous avons des dépenses qui sont sous-estimées, notamment sur l'aide sociale pour l'accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, qui, quand même, rappelons-nous, qui sont des dépenses obligatoires. Et on constate aussi des dépenses pour la prestation de compensation du handicap qui est prévue en stabilité, alors qu'on constate des augmentations et surtout des besoins de plus en plus prégnants.
Alors, madame, vous accusez aussi de la majorité de droite d'avoir augmenté la dette. Alors justement, la dette, ça a été une des premières, des grandes critiques quand M. Capitanio a assumé la présidence du conseil départemental, parce qu'il a accusé la gestion de M. Favier. Il a dénoncé la dette. Alors, la dette a augmenté?
Oui, la dette a augmenté, une dette qui augmente, et puis des frais financiers qui augmentent de 25% cette année, effectivement, hein, comme vous l'avez dit, malgré les promesses de la droite et de M. Capitanio, qui se réclamaient et se proclamaient des meilleurs gestionnaires que la gauche, on voit bien aussi, entre gesticulation et gestion, le pas. Effectivement, nous sommes dans des promesses qui n'appartiennent qu'à la droite.
Alors, ça n'empêche qu'il y a une réalité. Hein. Il s'agit du financement des collectivités territoriales par l'État. C'est les subventions, ça diminue. On dirait que l'État a une dette de plusieurs centaines de millions d'euros par rapport au département. Donc, quand il y a des problèmes de recettes, automatiquement, les dépenses, ça diminue, non?
Alors, effectivement, il y a un État, je dirais même plus un gouvernement, parce que ce sont quand même des choix politiques opérés par ce gouvernement depuis des années, qui baisse ses dotations globales de fonctionnement. Pour le département, c'est même plus de 900 millions d'euros en moins de DGF. L'État aussi, le gouvernement, qui doit plus de millions d'euros pour le reste à charge, notamment pour les trois allocations individuelles de solidarité, dont le RSA. Rappelons que pour cette année, effectivement, on est à plus de 200 millions d'euros. Nous disons que face à cette situation, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser, ce qui a d'ailleurs toujours été, en tout cas, le marqueur politique dans ce département. Et contrairement à ce que M. Capitagno, lors de la séance du 2 avril, dit que la résistance, la mobilisation, c'en est fini dans ce département parce que ça donne une mauvaise image du Val-de-Marne et qu'il faudrait l'arrêter, nous disons au contraire que ça fait partie de notre histoire et notamment de savoir se faire respecter. Donc nous appelons à la mobilisation pour que le gouvernement donne les moyens notamment aux collectivités, et que les mesures gouvernementales prises et celles qui seront encore prises ne vont pas dans le sens des aspirations et des besoins des populations, notamment en Val-de-Marne.
Mais, Madame Agounde, finalement, je rappelle, on aura le temps de détailler les choses, parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a le logement, etc., il y a l'éducation, les crèches et les collèges. Mais pour vous, donc, ce budget 2024 de la majorité de droite, il met en question un certain nombre de droits sociaux, de questions de très importantes, parce qu'on vit une situation difficile du point de vue économique, la précarité augmente. Donc, ça remet en question un certain nombre de choses que le département a fait pendant des décennies.
Bien sûr, déjà à leur arrivée, quand on supprime les chèques solidarité et les fêtes des solidarités et qu'on réduit le budget de l'action sociale, bien évidemment, on remet en cause des droits acquis par les Val-de-Marnais et notamment ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et rappelons que le département, en tout cas le Val-de-Marne, jusqu'en 2021, avait à cœur d'être un bouclier social pour les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises.
Alors, Madame Fatia Agoun, je rappelle, vous êtes conseillère départementale du Val-de-Marne, présidente du groupe Val-de-Marne en commun, et vous avez co-signé une lettre qui avait été adressée à la région Île-de-France. Ce qui concerne la ligne de RER C Sud. À propos du schéma directeur de la ligne, justement, c'est quelque chose, c'est un projet de conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous avez une réponse déjà du conseil d'administration? Mais pour nos éditeurs, qu'est-ce qui se passe justement avec cette ligne RER C Sud?
Alors effectivement, sur cette... moi, à ma connaissance, je n'ai pas eu
de retour.
Mmh. Et sur le RER C Sud, effectivement, il y a des problématiques auxquelles sont confrontés les usagers et les usagères de cette ligne, qui sont assez importants et pour lesquels nous avons effectivement interpellé Île-de-France Mobilité. Les transports sont un enjeu majeur dans notre département. D'ailleurs, nous l'avons toujours porté avec Christian Favier, effectivement, à travers les politiques de développement du transport qui ont été pour nous un sujet majeur pour les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises. Et là, effectivement, sur la question du RERC, nous avons encore des batailles à mener pour que les usagers et les usagères puissent voyager dans les meilleures conditions et pouvoir être dans des conditions les plus optimales.
Madame Fatia Agoun, une dernière question, ça concerne le logement. C'est fini, c'est la fin de la trêve hivernale. Est-ce que vous êtes mobilisé là-dessus? Qu'est-ce qui se passe au niveau du département 94? On m'a dit qu'il manquait environ 40 000 logements.
Alors oui, effectivement, dans ce département aujourd'hui, on a plus de 100 000 demandeurs de logements. Cette situation est inadmissible, intolérable. Nous, notre groupe, nous nous mobilisons sur cette question parce que pour nous, elle est essentielle. Elle est essentielle pour la vie des gens et des milliers de Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises. Donc, effectivement, la trêve hivernale a pris fin. Nous appelons effectivement à être à une forte mobilisation parce que cette situation à la fois du mal logement mais du manque de logement et effectivement la droite départementale fait le choix de ne plus soutenir les villes où il y a plus de 40% de logements sociaux. Mmh. Mais en plus de ça, il y a encore des villes qui sont carencées et qui refusent de construire du logement social, et notamment du logement social accessible pour tous et toutes. Quand on voit qu'aujourd'hui, une vingtaine de villes sont encore carencées dans ce département, nous ne trouvons ça inadmissible, parce que chaque jour, en tout cas nous, moi quand je rencontre des gens dans mes permanences qui n'ont pas de logement, vous voyez, la solution c'est à la fois construire du logement social accessible pour tous et toutes, à la fois permettre cette construction, donc notamment, par exemple, en réduisant la TVA à 5,5. Voilà, il y a des propositions concrètes. Nous aurons, j'espère, l'occasion d'en discuter le 28 avril, lorsque nous nous rencontrerons à nouveau.
Tout à fait. Donc, en plus, le gouvernement a décidé de changer le contenu de la loi SRU. Sans oublier également que le département du Val-de-Marne a supprimé la subvention à la CNL, la Confédération Nationale du Logement.
Madame c'est Agoun, une punition.
Madame Agoun, nous aurons l'occasion de détailler, d'essayer de savoir pourquoi. Merci bien. Donc, on se donne rendez-vous dans les studios le 28 à 12h précise, qu'on puisse détailler, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas parlé, entre autres l'éducation, qui est très important au niveau des crèches et des collèges. Merci Madame Agoun, et à la fin du mois alors.
Merci à vous, très bon dimanche à vous et à vos
merci.
Auditeurs et auditrices. Merci, au revoir.
Au revoir. Et nous, on va revenir dans quelques instants pour parler de quoi ? De l'enseignement du portugais. Un prof part à la retraite n'est pas remplacé. Apparemment, il n'y a pas de candidat. Bien au direct. Passage à niveau, votre compagnie ce dimanche 7 avril. Je rappelle l'émission avec rediffusion dans le nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Eh bien, c'est pas une blague belge, loin s'en faut. Un professeur part à la retraite, c'est parfaitement normal. Ça fait plusieurs mois et apparemment, il n'y a pas
de remplaçants. À savoir, des concours ont été ouverts, pas de réponse. Le pourquoi, bon, ça on va le déterminer avec le futur, déjà secrétaire d'État de haute communauté, les ministres, le premier ministre, etc., etc. Alors, justement, les parents, ils sont pas restés les bras croisés. Ils ont lancé une pétition qu'on peut la trouver change.org. Les élèves d'aujourd'hui seront les enseignants de demain. Alors, ce matin, à 10h20, justement, il y avait 118 signatures. Je ne l'ai pas actualisé. Alors, avec nous, deux mères d'élèves. Alors, on a l'habitude de dire parents, c'est au pluriel. Et ben, ça, c'est important parce qu'on sait très bien qu'au niveau de l'enseignement, quand il y a un problème à l'école, qui c'est qu'on appelle ? Ce sont les mamans. Jamais le papa en règle générale. Je ne veux pas généraliser, mais enfin. Avec nous, Madame Ludivine Lemercier et Sandrine Arimant. Merci, bonjour d'être avec nous.
Bonjour. Bonjour.
Alors, justement, cette pétition, il y a quelque chose que ça vous a révolté. Alors, d'après mes renseignements, il s'agit de trois localités, Brunois, Hyères et Montgeron, il y avait des cours de portugais et que depuis le début de l'année, il n'y en a plus.
Alors, pour notre cas particulier, oui, ça ne, c'est que pour ces villes-là, mais il faut savoir que actuellement, il manque des enseignements sur toute la France. Donc, effectivement, nous avons réagi par rapport à notre problématique, mais c'est un cas, une problématique nationale.
Alors apparemment, il manquerait 10 professeurs au niveau national. Alors, Ludivine Mercier, c'est vous qui avez lancé cette pétition. Mais le pourquoi ? Parce qu'il faut lire la pétition. Apprendre la langue portugaise, c'est plus qu'apprendre une langue comme ça.
Oui, tout à fait. Il se trouve que mon conjoint est d'origine portugaise. Mmh. Et lui-même a eu l'occasion d'apprendre le portugais avec ses parents. Mais en revanche, jamais de façon structurée. Il y avait déjà l'époque des possibilités d'apprendre à l'école, mais ça n'a pas été son cas. Et ma foi, quand on a eu nos enfants, ça m'a semblé important de pouvoir conserver le lien avec le pays d'origine des grands-parents. Et on n'avait pas l'opportunité d'avoir... la seule opportunité qu'on a vue et qui nous semblait très très pratique, très efficace, c'était de l'enseignement qui était proposé en sus du cursus des enfants dès le primaire. Ça nous était proposé à travers la CCPF, donc la coordination des collectivités portugaises de France. Voilà. Et effectivement, comme vous le disiez, notre professeur est parti en retrait, donc un fait qui s'anticipe à Noël. Et depuis, nos enfants n'ont plus de cours. Donc là, je parle du primaire, puisque ce professeur s'occupait des enfants de primaire sur les trois villes que vous avez citées, mais également sur le collège.
Voilà. Alors, vous avez adressé une lettre à Madame la coordinatrice de l'enseignement portugais en France, datée du 23 mars, demande urgente de cours de portugais primaire et au collège. 23 mars aujourd'hui, vers le 7 avril.
Toujours aucune réponse. On s'était dit qu'il devait peut-être y avoir une corrélation avec les élections. Toutefois, quand on regarde le programme des partis qui ont le plus de sièges, il s'avère que la promotion du portugais à l'étranger fait partie de leurs objectifs. Notamment, ils souhaitent que le portugais soit une langue officielle à l'ONU à l'horizon 2030, ce qui fait que pour qu'elle soit devenue une langue officielle, il faut qu'elle soit parlée par le plus grand nombre, y compris par des non-portugais, puisque ces cours, il faut savoir que je l'ai constaté parce que j'ai ma fille qui est au collège, et il y a des enfants qui ne sont pas du tout issus de parents luso-descendants et qui s'intéressent à la culture portugaise parce qu'ils ont des petits copains ou voilà. Et c'est une perte, à mon sens, de ne pas pouvoir mettre un enseignant en face.
Oui, parce que quand on parle du portugais, il n'y a pas que le petit rectangle, hein, le Portugal au bout de l'Europe. Il y a l'Afrique, il y a le Brésil, 200 millions d'habitants, etc., etc. On peut même aller jusqu'en Asie. Et le portugais, c'est une langue de travail aussi. Donc c'est un atout pour les élèves, même pour leur futur professionnel.
Complètement. C'est une clé supplémentaire pour tous ces enfants qui apprennent le portugais. Il faut savoir que, en tant que parents, on essaye de leur donner une boîte à outils assez conséquente pour quand ils seront adultes. Et le portugais est effectivement une langue qui pourra leur servir plus tard.
Alors, vous rappelez à l'ordre, je passe l'expression, les autorités portugaises et françaises, parce que là, je parle bon, je lis votre pétition sur change.org, je rappelle. Conformément au décret numéro 249-479 du 20 mai 2019, portant la publication de l'accord de coopération éducative et linguistique entre la République française et la République portugaise signé à Paris le 28 mars 2017, il est clairement établi que le portugais et le français sont reconnus comme langue de travail, de communication et de culture. De plus, cet accord souligne l'importance cruciale pour chacun des deux États de promouvoir la connaissance de la langue et de la culture de l'autre sur leur territoire respectif. Bon, ça c'était écrit, mais...
Alors, on n'en voit pas vraiment la traduction, en l'occurrence, ou la traduction en train de s'étioler, puisque... Comme on vous le disait au départ, on est parti de notre petit carré où on s'est dit zut, alors on voudrait continuer pour nos enfants. Et en creusant, on s'est rendu compte que sur le primaire, une dizaine d'enseignants sont manquants. Et sur le secondaire, ben c'est de pire en pire.
Donc quand même 50% des élèves du collège qui n'ont pas d'enseignants en phase 2 quand même. Ce qui est énorme.
Oui, parce que là on parle du premier degré, n'est-ce pas, l'école primaire. Bon, il faut que ça continue au collège, il faut que ça continue au lycée, etc., etc. Sinon, les enfants, comment est-ce qu'on peut les mobiliser ? Dire, ah, t'as intérêt parce que c'est intéressant, parce que tu vas apprendre, parce que ça va te faciliter en partie avec la réforme du bac et également du lycée. Bon, les points supplémentaires, ça a été réduit, mais enfin, mais pour les enfants, c'est important parce que ça les ouvre aussi.
Oui, et puis il n'y a pas vraiment de solution en fait pour le primaire, à part un enseignement par un parent. Mais même à partir du secondaire, en fait, ce qu'on nous a répondu, c'est qu'on pouvait passer par le CNED. Mmh. Mais ça veut dire qu'il faut que le parent en face ait le temps et la capacité, parce que enseigner c'est un métier, ça s'apprend pas. Enfin, pardon, excusez-moi, ça s'apprend justement, et ça ne se devine pas. Et tout le monde n'est pas en capacité de le faire, donc c'est vraiment une grosse perte. Et le CNED, c'est pour des enfants qui sont au collège, qui sont jeunes, c'est quand même très difficile.
Mmh. Oui, parce que bon, il y a déjà. Oui.
Et en plus, au collège, ils sont quand même commencent à être des pré-ados, à vouloir être de moins en moins appliqués peut-être sur certaines matières, et que si ça devient une contrainte où ils se retrouvent en toute autonomie, je pense que l'acquisition sera quand même moins efficiente.
Mais il y a quand même quelque chose de très important. Moi, je suis passé par là aussi. C'est que les enfants, les petits, hein, ceux qui sont en primaire, ils sont extraordinaires parce qu'ils vont y sacrifier une partie des heures de loisirs pour aller au cours de portugais, parce que ça se passe en dehors des heures de l'école.
Oui, tout à fait. Après, on avait, je ne parlerai pas pour les autres zones, mais on avait un enseignant qui était assez extraordinaire, avec une petite mandoline qui faisait que les cours, je pense, étaient très agréables pour les enfants, avec beaucoup de jeux interactifs, avec un outil dont il sert qui s'appelle TiniTap, où ils construisaient des leçons. Donc voilà, c'est là où je dis vraiment l'apport d'un enseignant par rapport à un parent seul devant son cours, c'est très très important, et une émulation entre les enfants. Voilà, ça c'était important. Et après, le fait d'avoir la reconnaissance sur les bulletins, on a pu l'avoir, pas toujours, ça dépend un peu du directeur de l'école, mais en tout cas sur les dernières années, on a pu l'avoir du travail qui a été effectué. C'est très important, c'est une valorisation, ça veut dire que c'est pas juste tu vas à ce cours, tu bosses bien, ok, on est contents les parents, mais c'est aussi, c'est dans ton suivi, c'est reconnu officiellement. C'est quelque chose qui a de la valeur pour eux.
Mais justement, la valeur, bon, vous êtes mère, bon, mes enfants, ils sont déjà grands, je suis déjà passé par là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais enfin, justement, qu'est-ce qu'ils vous disent, là ? Ils ont envie d'aller au cours ? Qu'est-ce qui...
Alors, mes enfants se plaignent justement de ne pas avoir cours. Parce que, alors, moins la petite, parce que je pense qu'elle est en CE2, donc c'est un peu les prémices. Voilà. Par contre, la seconde qui est en cinquième, Elle s'en plaint parce que justement, comme on ne parle pas portugais à la maison, parce que mon conjoint n'étant pas portugais, on ne parle pas. En tout cas, ça s'y prête beaucoup moins. Et elle est vraiment demandeuse. Pour elle, c'est important la culture portugaise. Et on ne va pas tous les ans au Portugal, mais quand on y va, elle est frustrée de ne pas réussir à communiquer avec la famille correctement. Et c'est vrai qu'au collège, c'est là où ils apprennent vraiment les vraies structures de phrases, la grammaire, la conjugaison, et ils arrivent à mettre en place tous les acquis de vocabulaire qu'ils ont pu avoir en primaire. Et c'est maintenant qu'elle commençait justement à réussir à s'exprimer qu'elle est cassée dans son élan. Et c'est très frustrant pour elle. Et malheureusement, je manque de temps pour l'aider, pour l'accompagner. Et on manque également de support hein, pédagogique, c'est certain.
Lydie, te remercier. Chez vous, comment...
Chez nous, il n'y a pas non plus de portugais pratiqué tous les jours. En fait, ça n'avait pas tellement de matérialité. Jusqu'à ce qu'on prenne l'habitude d'aller, nous c'est en général on y va à la Toussaint au Portugal pour voir la famille. Et là voilà, mon garçon lui est en CM2, donc il commence à avoir une base qui fait que il peut se débrouiller. En tout cas, on l'envoie faire les courses s'il veut ramener des pastèches de Belém par exemple, faut qu'il y aille tout seul les chercher. Très bêtement. Enfin voilà, donc on l'amène à pratiquer et je pense qu'il prend plus plaisir maintenant à voir que voilà, c'est pas juste j'apprends, c'est je peux mettre en œuvre également. Il y a des choses que je capte et ce serait vraiment dommage aussi de lui couper les ailes.
Alors, il y a des gens qui disent que le bilinguisme, c'est très important parce que ça ouvre les horizons des enfants. Une fois qu'on parle deux langues, on est capable de parler deux, trois, quatre, ils ont une facilité énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous êtes d'accord avec cette théorie ou pas.
Alors, je suis d'accord avec cette théorie.
Mais on ne la met pas en pratique, puisque justement, voilà, nos enfants ne sont malheureusement pas bilingues. Voilà.
Donc, effectivement. Alors, c'est vrai que moi, j'ai profité... Moi, je suis bilingue et j'ai profité de cet enseignement, justement, depuis la primaire. Ouais. Par contre, j'ai grandi à Paris, donc c'est sûr que tout ce qui était infrastructure, on ne peut pas dire que c'est la même chose en banlieue. Donc, c'est vrai que j'ai pu bénéficier de l'apprentissage du portugais dès mon plus jeune âge, et du bon portugais et pas du franco-portugais comme on peut l'entendre.
Oui, parce qu'on prend par exemple Mozart, le lycée Montaigne, etc., etc., même collège-lycée Honoré de Balzac à Paris 17e. Bon, en plus, c'est des profs qui viennent du Portugal. Alors, il y a quelque chose de très important, j'y reviens tous les ans là-dessus, hein. C'est que janvier, février, surtout mars, en principe, il y a des formulaires qui doivent circuler au niveau du premier degré, à savoir de l'école primaire, pour savoir si on veut apprendre une langue. Est-ce que là, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose comme ça? Parce qu'en principe, les directeurs d'école sont obligés de présenter le formulaire.
Alors, on a reçu le formulaire... Alors, j'ai reçu le formulaire pour le collège, mais pas pour le primaire.
Oh, moi, je l'ai eu sur le primaire. T'as loupé quelque chose.
En tout cas, je n'ai pas eu les informations par l'école.
Ah oui, tu as raison, pas par l'école, tout à fait. On l'a eu par notre ancien professeur qui a diffusé le sujet. Et ce qui nous a été dit, c'est qu'on nous proposait d'inscrire nos enfants, en revanche que c'était sous réserve de la possibilité qu'il y ait un professeur et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de cours.
Oui, parce qu'ils imposent un minimum d'élèves, c'est ça, par classe hein,
tout à fait. Mais
c'était pas le problème, ça.
Mais exactement, pour nous, ce n'était pas le problème, il y avait suffisamment d'inscrits pour la rentrée. Depuis notre courrier, alors on n'a pas eu de réponse à notre courrier, en tant que tel, par contre, on a dû répondre pour le collège, je parle, et pas pour le primaire. On a dû répondre à un questionnaire. Est-ce qu'on serait d'accord pour avoir un enseignement en visio,
végétal,
ce qui serait un soin palliatif, je dirais. Mais bon, ça serait un moindre mal, parce que c'est sûr que d'avoir quelqu'un de compétent. Mais le problème, c'est que garder l'attention d'un enfant en
visio, adolescent.
je souhaite beaucoup de courage.
Ils ont déjà assez d'écrans comme ça, non?
Effectivement.
Non, mais là, il y a quelque chose. Ça fait déjà plusieurs gouvernements. Les deux derniers, c'était socialiste. Maintenant, ça va être la droite. Mais enfin, parlons là-dessus. Bon, il n'y a pas beaucoup de changements. Je vais attraper les députés. Je vais attraper les ministres, etc. Vous inquiétez pas. Alors, justement, alors, petit à petit, l'enseignement digital. Des tablettes, ceci et cela, et plus d'enseignement présentiel. Donc, pour des petits-enfants comme ça, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est quelque chose d'extérieur? C'est pas humain?
J'y crois pas. En fait, ce qui était intéressant dans l'enseignement qu'on pouvait avoir avec notre professeur, c'est qu'il proposait un enseignement physique, et ensuite, justement, via ce fameux TINITAP, en fait, quelque chose qui était assez ludique, qui était digital, qui convient aussi aux enfants, parce que à l'heure actuelle, un livre simplement, c'est pas ce qui les passionne le plus. Donc, il faut s'ouvrir à d'autres méthodes. En revanche, je pense que l'enseignement digital seul, en tout cas sur des petites classes, et j'ai un vrai doute sur le maintien de l'intention sur des collégiens pour avoir une collégienne également, je pense pas que ce soit le meilleur des moyens. Mmh. Sur le lycée, à mon avis, ça se joue correctement. Les enfants ont pris conscience. En grande partie de ce qu'ils peuvent en acquérir, et le positionnement n'est pas le même. Mais sur les petites classes, non.
Alors revenons un petit peu à votre lettre de coordination de l'enseignement portugais en France. Bon, j'ai eu des infos, je ne sais pas si elles sont correctes ou pas, parce que des concours auraient été ouverts de professeurs, mais il n'y a pas eu de candidats. Est-ce que ça correspond à une réalité ou pas du tout?
Alors, à notre connaissance, il n'y a pas eu de candidat qui pouvait rentrer dans les critères. Le critère étant d'être portugais. Et c'est aussi l'un des points de notre pétition, c'est que on trouve que c'est se fermer des portes que de réserver l'enseignement du portugais exclusivement aux portugais. Nous avons des personnes tout à fait compétentes qui ne sont pas portugaises, qui ont les formations pour. Elles peuvent très bien être brésiliennes ou même françaises. À partir du moment où on peut très bien leur faire passer un examen pour vérifier les compétences en portugais, mais se fermer la porte comme ça, c'est regrettable.
Non, mais ils peuvent dire, bon, parce que c'est payé par le gouvernement portugais.
Je pense que c'est pour ça, mais...
Ah, oui. Mais ils le disent ou ils le disent pas?
Alors, je n'ai pas entendu cet argument, puisque j'ai pas eu de réponse à mon courrier. Par contre, cet enseignement n'est pas payé par l'éducation nationale portugaise, mais par le ministère des Affaires étrangères. Ce qui veut dire que l'impact, c'est pas seulement de promouvoir la langue portugaise, mais ça donne bien une dimension économique et aussi ambassadrice du Portugal. Donc, c'est un choix politique. Ce n'est pas à moi de le faire, je ne suis pas politique, je ne vis pas au Portugal, mais il me semble que si on veut quelque chose, si on veut que le portugais soit une langue à l'ONU, si on veut continuer à être très bon, avoir une belle vitrine, il faut parfois se donner les moyens.
Il faut investir.
Investir.
Parce que, bon, d'ailleurs, bon, l'ambassadeur du Portugal, il est arrivé il y a quelques mois à Paris, une nouvelle, il a découvert qu'il y a davantage d'étudiants de Portugal au Sénégal qu'en France. Bon, moi j'ai vu un professeur universitaire qui parle portugais, qui est sénégalais et qui dirige le département portugais dans une université à Dakar. C'est lui qui m'a dit ça. Parce que quand on parle des portugais, on revient un petit peu au gouvernement français. Parce que avec la réforme du bac et du lycée, l'enseignement du portugais dans la région parisienne, ça reste à titre expérimental. Il n'y a qu'un Guyane, et on comprend pourquoi, parce que ça fait frontière avec le Brésil. Tout à l'heure, on a cité, je ne sais pas quel décret, etc. Mais je vais revenir à quelque chose de plus récent. C'était la rencontre de haut niveau France-Portugal à Paris, Elisabeth Borne et Antony Costa, le 28 juin 2023. Donc ça fait moins d'un an. Alors, notamment ont été évoquées les voies et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des sciences et d'innovation, de l'enseignement du français au Portugal et du portugais en France. Bon, on revient à des textes. Parole, comme disait cet italien.
Voilà, c'est ce que je disais, ça c'est pas du portugais, mais c'est valable aussi.
Alors, quelque chose de très intéressant, c'est que la semaine prochaine, justement, Il va avoir un séjour linguistique au Portugal. Ça, combien de dizaines d'enfants? 73, je sais, j'avais les chiffres exacts, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai.
Non, on est à un peu moins de 130, je vais vous dire ça, 113 élèves. 113 élèves cette année, 70 c'était l'année dernière. Donc, on a plusieurs enfants, c'est avec l'aide de la CCPF également.
Parce que de la part du gouvernement portugais,
voilà, c'est ce que j'allais vous dire en fait. C'est la CCPF qui organise ça et lors de la réunion de préparation qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, les organisateurs nous ont dit que malgré la sollicitation de subventions qui avait été faite, aucun argent n'avait été accordé. C'était déjà le cas l'année dernière. Les années précédentes, je ne me souviens plus.
Les années précédentes, il y avait eu
une contribution.
Après, les contributions, même quand elles ne sont pas substantielles,
ça
montre une volonté politique. Et surtout, je pense que les séjours linguistiques au Portugal, c'est pas le séjour en lui-même qui revient cher, c'est surtout le billet d'avion.
Ça va coûter combien par an?
On est aux alentours de 800. Aux alentours de 800, un petit peu moins de 800 euros.
Donc pour une semaine, en sachant que le séjour sur place, il est à 300 euros, il me semble, à Quinta da Escola, là où ils vont être hébergés. C'est le prix de la semaine, ce qui est un peu dommage quand on voit le prix total, puisque en fait ça ferme la porte à énormément de monde. Ouais. Parce qu'en plus ces séjours ils sont hyper importants. Alors mes filles y sont allées l'année dernière, cette année malheureusement elles pourront pas y aller. Pour des raisons économiques, je l'assume complètement, je leur ai dit clairement. Ce que je trouve regrettable, c'est que ces séjours linguistiques, c'est vraiment pour mettre en application le portugais, parce que je vois bien quand je pars au Portugal avec elle, c'est maman, et c'est très peu mine. Donc, en tout cas, au début des vacances. Après, heureusement, les choses changent, mais elles vont chercher la facilité. C'est humain d'aller chercher la personne qui parle la même langue que soi. Là, au moins, ils sont immergés.
Et dans l'entraide, en fait, parce que ce qui nous a été expliqué, et ce qui est avéré, puisque mon garçon est parti également l'année dernière, c'est que ce sont des encadrants portugais.
Qui parlent que portugais,
tout à fait, qui leur expliquent en portugais, et à la fin de chaque explication, pour éviter les accidents, on va dire, ils demandent, en fait, est-ce que tout le monde a compris? Si les enfants n'ont pas compris, c'est à leurs petits camarades de faire les explications en traduisant, en expliquant. Et par ailleurs, donc il y a un membre de la coordination, un accompagnant, qui traduit si vraiment il y avait une incompréhension pour éviter tout accident. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très très bénéfique sur le sujet, et également dans la compréhension de la culture, puisqu'il y a des visites culturelles. Cette année, ils vont aller visiter une fabrique. Je ne sais pas si on dit une faïencerie, en fait. Je ne sais pas quel nom ça porte au juste. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est très, très bénéfique. Mmh. Et mon garçon, autant l'année dernière, il disait non, je ne veux pas y aller, je n'ai pas envie, mes copains, ils ne vont pas. Et là, il repart, il signe, il n'y a pas de souci. On les a entendus l'année dernière rentrer à travers tout l'aéroport et chanter. C'était très agréable.
Ils
chantaient en portugais, voilà.
Mais surtout, c'est que par rapport aux gamins qui vont, j'ai vu ça, ça concerne l'année dernière, tout au moins, c'est qu'il y a des enfants de plusieurs origines. Certains qui n'ont rien à voir avec le Portugal, etc., etc.
Oui, ça revient sur ce que disait Sandrina, en fait, sur des enfants qui ont l'opportunité d'apprendre dès le primaire le portugais et qui vont s'y lancer sans aucun lien avec le Portugal, autre qu'un copain qui fait aussi le cours. C'est ce qui est génial.
Donc ça permet quand même, c'est une belle vitrine pour le Portugal, ce séjour linguistique.
Ben oui, non, mais heureusement que vous êtes à l'arrêt. Et donc de nous alerter, on va continuer. On vous demande de nous donner des nouvelles, s'il y a d'autres parents qui ont des initiatives, etc., etc.
Tout à fait.
Les micros sont ouverts.
On prend toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup.
On est là pour ça. Donc, je rappelle la pétition, les élèves d'aujourd'hui seront les enseignants de demain. On peut trouver la pétition sur change.org. Et je me permets de lire quand même un bout. J'en profite, parce que vous m'avez fait le travail. L'enseignement de la langue portugaise à cette nouvelle génération est primordial car il ne repose plus sur l'apprentissage domestique. Nos foyers sont multiculturels et cela entraîne le fait que le portugais n'est plus pratiqué en tant que langue maternelle. Si la langue portugaise n'est plus enseignée à l'école, cela entraînera le déclin de notre belle langue et de notre riche culture. Fin de citation.
Tout à fait.
C'est ce qu'on pense vraiment.
Donc, disons en français, bon entendeur, salut, non?
Oui, tout à fait. Merci.
Merci.
Je vous remercie de deviner le mercier. Sandrine Riment, merci. Et tenez-nous au courant de vos démarches. Et en tout temps, bon voyage pour les enfants 113, c'est ça?
Oui, 113.
113, j'ai bien noté cette fois-ci. Merci.
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 Estamos já na reta final da passagem nível neste domingo, dia 7 de abril. Hoje é dia 7, amanhã é dia 8, depois da manhã é dia 9. Com efeito, vamos ter uma dupla portuguesa-brasileira, luso-brasileira, no Théâtre de la Ville, aqui em Paris, no âmbito ainda das celebrações do 50º aniversário da Revolução dos Escravos. Precisamente amanhã às 20 horas, António Zambuja no palco, igualmente com Yamandu Costa, amanhã. E terça-feira. E a propósito de Brasil, porque não, o novo filme brasileiro que vai ser estreado aqui em França no dia 10 de abril, o título é Sans Cœur, Sem Coração. A tradução em português do Brasil não é exatamente a mesma, mas enfim, para já aqui fica um cheirinho da banda de sonoro.
Você tem coração!
Chamam aquela menina de sem coração, hein?
A gente sempre chamou ela assim. Parece que quando ela era mais nova, tiraram o coração dela.
E quando Tamara for pra Brasília, vai esquecer da gente, né?
Claro que não, gente.
Vocês são amigos dela, é? Nunca vi vocês juntos.
Olha a tua namorada.
Chama ela.
Deixa a menina. Vocês nem conhecem ela.
Que é isso?
Eu sonhei com essa baleia.
Também.
Será que um dia eu vou sair daqui? Me leva, Tamara.
Tu vai se mudar de vez mesmo, é?
Viver uma coisa que eu nunca vivi.
Banda sonora do filme São Carro, um filme brasileiro, estreia será aqui já na próxima quarta-feira, dia 10 de abril. Trata-se de uma história que se passa no nordeste do Brasil, onde podemos encontrar precisamente um certo número de jovens que estão confrontados igualmente às suas origens sociais e não só. No meio disto tudo há elementos fantásticos, de forma que, bom, pode ser uma de descoberta. Num capítulo completamente diferente, e essa cerimónia decorre hoje, durante o dia, vai ser a cerimónia alusiva ao 85º aniversário da abertura do campo de Gurs, é nos Pirineus Atlânticos, nem mais nem menos, um campo de concentração para onde passaram mais de 60 pessoas, 52 toneladas de nacionalidades, que ficaram internados num campo de concentração 250 quilómetros de arame trapado à volta para ver as condições, e portugueses igualmente, cerca de 400 portugueses estiveram internados neste campo de concentração. Hoje, como eu disse, uma cerimónia alusiva ao 85º aniversário da abertura deste campo, sem qualquer representação do Estado português, mas o Comitê de Sousa Mendes está a marcar presença nesse local, que é bastante simbólico, na medida em que muitos deles, precisamente, eram refugiados políticos, alguns dos gajos fugidos, precisamente, do regime de Salazar, mas, enfim, assim vai a atualidade. E a propósito da atualidade, lembro que no próximo dia 13 de abril, em Richebourg, igualmente lá, Couture, e sem esquecer, no dia 14 de abril, em Boulogne-sur-Mer, e igualmente em Ambleteuse, vai haver a cerimónia alusiva ao 106º aniversário da Batalha de Lallys, para homenagear os soldados do Corpo Expedicionário Português, igualmente as enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa que participaram na Primeira Grande Guerra aqui em França, com a presença de 7 número de individualidades, o embaixador de Portugal aqui em França, evidentemente, o prefeito do Pas-de-Calais, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas, mas igualmente das Forças Armadas Francesas, vão estar presentes, para além de presença de o 7 número de presidentes de Câmara, Richebourg, La Couture, Boulogne-sur-Mer, Blanteuse. Bom, é para dizer que com isto tudo é que éramos para ter o presidente da Câmara Municipal de Richebourg, Jérôme Dumillier. Ele está em Lisboa e, segundo imagens que mandou há instantes, está numa cerimónia militar, na medida que ele está a preparar a vinda aqui, no, entre outros, da Liga dos Antigos Combatentes, de maneira que, bom, não podemos falar com o maire de Richebourg, Lavoué, e já agora, bom, cheirinho, por que não? António Zambujo, amanhã, Zambujo. Amanhã e terça-feira, às 20 horas, no Teatro La Ville, Place du Châtelet.
Se queres ser melhor mulher, embarca para uma ilha. Mas se algum rapaz por lá houver, não é deserta a ilha. Mas se melhorares e ele te quiser, não esqueças nessa ilha que eu não vou querer. Melhor mulher, vou querer-te minha. Mas se queres por aí enriquecer, emigra lá para fora. Mas se noutra terra o cofre encher, foi bom tu estares lá fora. E se então alguém te pretender, não te olvides lá fora. Para mim tu és rica mulher, não tinhas de ir embora. Podes crer até é tempo de usar, mas vais deixar-me tão triste. Não quero mais, bela mulher, mais bela não.
António Zambujo amanhã e depois no Teatro de la Ville às 20 horas precisamente. E voltando um bocadinho àquilo que nós estamos a dizer no princípio, ao princípio da emissão, ou seja, com os nossos convidados, queria relembrar três locais onde vai estar José Vieira, para apresentar o seu livro Souvenir da Futur Rádio, edições Chandaigne, concretamente dia 19 de abril na Librairie Les Nouveautés em Paris 10, dia 24 de abril na FNAC Saint-Lazare e dia 10 de maio, Ciné Malraux em Bondy. Obrigado ao Manuel Alexandre e espero regressar na próxima semana, será 14 de abril. Bem-ajam.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.